Il faut quand même qu'on décolle. Là, cette fois-ci, je vais vous proposer, dans la deuxième partie, une méditation qui m'est personnelle. Je voudrais avec vous regarder la question de l'être et de notre existence sous un autre angle d'attaque que sur le point de vue donc de l'interrogation. Vous avez bien vu que jusqu'à maintenant, je vous ai dit « ceci est ». Je fais un jugement d'existence et je m'aperçois que dans ce mot « est », il y a quelque chose de très important à saisir. Je perçois en même temps que ça n'est pas commode. Et je perçois enfin que toute l'humanité et l'histoire de l'intelligence humaine est suspendue à cette question. C'est à partir du moment où on a abandonné définitivement la question de l'interrogation sur l'être qu'on est rentré dans les idéologies athées. Et dans ce qu'on appelle l'ontologisme, et on a dit l'être, c'est la vie. La vie, c'est sacré. La vie n'est pas sacrée. Oui, je vois des gens qui font ce sourcil. La vie n'est pas sacrée. Parce que la vie est en contact avec sa source, et sa source, c'est mon âme. Et ce qui est sacré, c'est ce qui est en contact avec celui qui est tout autre que tout ce qui existe. Dieu, c'est ça ce qui est sacré. Ma vie n'est pas en contact direct, par nature, avec Dieu. L'être, oui. Et quand je dis l'absolu en moi, c'est la vie, eh bien, je deviens athée. Toute la question, ma vie n'est pas sacrée. La vie d'un enfant n'est pas sacrée. La vie d'un corbeau non plus. Et ça, c'est très important, comprenez? Parce qu'on commence à en avoir marre de Brigitte Bardot, comprenez? J'aime bien Brigitte Bardot, elle existe. Mais... Et vous comprenez bien que ça, de dire la vie c'est sacré, ça voudrait dire que l'absolu est dans la vie, voyez bien, et que si je veux être dans la dignité intérieure de l'être humain, il faut que je respecte, comme je respecte Dieu, le point de vue de la vie. Et que je m'engloutisse entièrement dans ce respect de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter la vie. Je dis que si on dit qu'il faut s'engloutir entièrement dans le point de vue des choses particulières, des vies limitées, alors à ce moment-là, je perds le contact avec la source même de l'existence. Et du coup, je sors du sacré et je tombe dans l'athéisme. Donc toute l'histoire de la vie spirituelle de l'homme est suspendue à cette question. Et en même temps, toute l'histoire de notre vie spirituelle à nous, chacun d'entre nous, est suspendue à cette question. Et vous sentez bien que quand je le fais à partir du jugement d'existence, je dis, je suis embêté. J'ai peur, j'ai une petite angoisse, j'ai un moment de recul, j'arrive pas, je suis pas assez intelligent, mon intelligence n'est pas assez aiguisée, j'arrive pas à pénétrer, je sais pas faire une induction. Alors, j'arrive pas. Alors du coup, prenez, je suis mal à l'aise. Vous le sentez. J'espère qu'au bout de deux fois, vous vous sentez mal à l'aise. Parce que si vous vous sentez pas mal à l'aise, j'espère que vous sentez une petite impatience. D'autres vont sentir une petite angoisse. D'autres se sentent un peu vidés. D'autres ont soif d'aller plus loin. Soif d'aboutir. D'autres sont dans la nuit complète. Il y a comme des... Dès qu'on s'approche du point de vue de est de l'être, il y a comme des odeurs, un climat métaphysique en nous qu'on appelle les nostalgies métaphysiques. Et c'est ces nostalgies métaphysiques qui conditionnent ce climat de la recherche du point de vue de l'être. Notre intelligence a perdu pied et on est un petit peu dans un état de vertige métaphysique. C'est très moderne de dire ça. C'est heideggerien de dire ça. Et c'est pour ça, nous sommes tous heideggeriens, même si vous n'avez jamais lu Heidegger. Tous ici, vous êtes heideggeriens. Tous. Il n'y en a pas un seul qui soit aristotélicien ici. Je vous connais bien et je peux vous dire, il n'y en a pas un seul qui est aristotélicien ici. Même moi. Enfin, c'est bon, ça. Alors, on va prendre la chose autrement. Je dis, mais oui, point de vue de l'être, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez bien qu'à partir de cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? J'ai envie de faire un petit raccourci. C'est pas? Avant de passer par l'induction de la substance, de passer par l'induction de l'acte, de regarder les modalités de la substance, de regarder les propriétés de l'intellekeya qui structure de l'intérieur le point de vue de l'être, et de regarder sa manifestation ou sa réalisation dans le point de vue de la métaphysique de la personne humaine, troisième point. Quatrième point, de regarder, donc à partir de là, de faire la montée démonstrative et du toucher de l'existence de l'être premier. Et enfin, cinquième point, de rentrer dans la contemplation des attributs réels de l'être premier et de rentrer dans l'union mystique avec l'être premier par excellence. Avant de faire toute cette démarche, qui est notre programme, vous allez en baver, je vais vous dire. Ben mais ça vaut la peine, hein. C'est vraiment juteux. Hein. J'ai envie, méditation personnelle, de faire un petit raccourci. Et le raccourci, je le fais d'autant plus volontiers que pratiquement j'ai un auditoire qui m'est acquis, n'est-ce pas ? Et donc. Mais si c'était un auditoire qui était vraiment, qui cherche à me fusiller, je ne le ferais pas, ne vous inquiétez pas. Je ne passerai pas par là. Je reprendrai l'induction, alors j'emmerderai mon assistance avec l'induction de la substance, l'induction de l'acte. Et alors là, ils en prendraient plein la tronche parce qu'il n'y a aucune possibilité de discuter. C'est irrenversible. Mais j'ai pitié de vous, n'est-ce pas ? Et j'ai pitié de moi aussi. Et je considère que nous sommes dans un climat heideggerien. Et je préfère dégager le terrain pour qu'on puisse comprendre à quel point la jeunesse de l'intelligence moderne a besoin de ce raccourci. Le raccourci que vous m'avez souvent entendu dire, parler de ce raccourci, que j'ai appelé le raccourci de l'innocence. Le raccourci de l'innocence originelle. Et ce petit raccourci, je voudrais bien, avec vous, regarder un petit peu de quoi il s'agit. Parce que qu'est-ce que c'est que l'être ? Je me pose la question, depuis deux après-midi. Qu'est-ce que c'est que l'être ? J'ai formalisé cette... en disant, qu'est-ce que c'est que l'être ? J'ai séparé le S du ceci par l'interrogation. Mais le S, ce qui est à l'intérieur de ce être formalisé, c'est la même chose que ce qui est à l'intérieur du S que je saisis dans le jugement d'existence. La même chose. C'est la même signification. C'est pas parce que je l'ai abstrait que ce n'est plus la même signification. Il y a une continuité. Donc j'ai parfaitement le droit de dire qu'est-ce que c'est que ce S. C'est la même chose que dire qu'est-ce que c'est que l'être. C'est ce que Heidegger, c'est ce sur quoi Heidegger bute. Parce que lui, il confond l'être avec Dieu. Et le S que je saisis dans l'arbre, ce n'est pas l'être de Dieu. Et donc il dit, c'est pas la même chose. Donc, puisque je suis dans un climat heideggerien, je vais reprendre avec l'existence de Dieu. Par le haut. Je pars donc du présupposé, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il faut à ce moment-là une confiance absolue. Vous me faites confiance, vous faites confiance à l'Église apostolique qui dit dans le Concile Vatican I que l'intelligence humaine est capable de manière démonstrative de prouver l'existence de l'être premier, le Créateur. On le fera. On le fera. Ça, c'est vraiment le vaccin. Ça. Une fois que vous l'aurez fait, il n'y aura plus aucune idéologie qui peut pénétrer en vous. Terminé. Quand vous aurez fait la démonstration, vous-même, c'est pas moi qui vais vous la faire, hein, ne comptez pas sur moi. Moi, je la fais, je vous montre comment on fait, c'est à vous de la faire. Prenez. Mais une fois que vous aurez fait ça, c'est fini. Toutes vos tentations par rapport... Il n'y aura plus, je vous affirme, je peux vous témoigner que c'est vrai. Il n'y a plus... Il n'y a plus aucun doute. Vous voyez bien, il y a la nuit de la foi, quelquefois. Il y a la nuit de l'esprit. Mais le doute a totalement disparu. Les attaques sur l'intelligence, c'est quand même précieux, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous appréhendez sur le point de vue de la foi et de l'existence de Dieu, vous êtes en pleine certitude. C'est parce que vous êtes devenu contemplatif. Et si votre intelligence a touché vitalement l'existence de l'être premier, je vous affirme que vous êtes inoculé, immunisé contre le point de vue de l'idéologie. Or, c'est le problème, parce que l'idéologie inhibe totalement la vie spirituelle, la vie intellectuelle, la vie humaine. Et il n'y a plus aucune possibilité de retrouver son origine et sa fin. Donc j'ai envie de faire un raccourci en disant, sachez que je viens de faire la démonstration de l'existence de l'être premier et je reviens. Je reviens vers vous. Je viens de faire, là ici, pendant que vous pouvez bouffer votre Coca-Cola, je viens de faire, à l'instant, la démonstration à l'intérieur de l'existence de l'être premier. Et je reviens vers vous. Donc je fais cette méditation, et je reviens vers vous dans l'angoisse de ce monde contemporain, d'un existentiel angoissé, perturbé. Et je sais que l'être premier est créateur de tout ce qui existe. L'acte créateur de Dieu se termine à est. L'acte créateur de Dieu ne se termine pas à ceci. Le moustique n'est pas créé par Dieu. Le chêne, le nuage n'est pas créé par Dieu. Hein ? Vous n'avez pas pensé à ça ? Je suis sûr que vous ne pensiez pas ça. Et pourtant, c'est vrai. Et ma vie, même actuellement, n'est pas créée par Dieu. Si ma vie actuellement était créée par Dieu, ça voudrait dire que Dieu et ma vie, c'est la même chose. Ça voudrait dire que je suis Dieu. Or, je ne suis pas Dieu. Il y a une différence entre mon existence et l'existence de l'être premier, même si ça a la même signification. L'acte créateur de Dieu se termine au fait que j'existe. Ah, donc si je veux rejoindre, en effet, après la démonstration de l'existence de Dieu, de l'être premier, si je veux rejoindre directement la présence de l'être premier, mon créateur, je me touche, je vois que j'existe, et je prends conscience que je suis suspendu à l'acte créateur de Dieu. Ça va ? Je me touche, je vois que j'existe, ah, excité. Bon, ma vie, je m'en fous, je prends le fait que j'existe. Je fiche pas mal de ma vie. Je laisse ma vie tomber. Hein ? Celui qui ne dépose pas sa vie, n'est-ce pas, ne vient pas à moi, n'est pas digne de moi. Il faut déposer sa vie, il faut déposer son âme, dit le grec. Donc la source de sa vie, même la source de sa vie. Et si Dieu était source de ma vie, il ne faudrait pas laisser tomber Dieu. Hein. Donc si Jésus dit ça, c'est qu'il prouve que la source de ma vie, ce n'est pas Dieu. La source de ma vie, c'est mon âme. Vous voyez comme on est percuté, hein, parce qu'on pense le contraire. Hein. Croyez-le bien, à cause de l'évolutionnisme, qui est une idéologie athée. Donc, je prends conscience quand j'existe, là, je suis en contact direct, en ce moment, actuellement, je suis suspendu à la créateur de l'être premier. Ah, si vous faites pendant le mois qui va venir 7 fois par jour un acte de jugement d'existence, de prise de conscience que vous êtes suspendu actuellement à la créateur de Dieu qui termine au fait que vous existez, dans 9 mois, vous êtes contemplatif, juré, promis, craché. Ça, je vous jure, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas contemplatif dans 9 mois, venez me voir, que je vous donne un coup de pied aux fesses, parce que vous êtes un menteur, vous n'avez pas fait 7 fois par jour l'acte d'adoration métaphysique. Et j'aime pas les menteurs. Alors, mais il y a une chose quand même. Lorsque Dieu actuellement fait que j'existe, je suis en contact avec lui. Un contact purement contemplatif. Puisque c'est à travers le jugement d'existence et à travers un acte d'adoration, de dépendance du point de vue de l'être. C'est une dépendance métaphysique. En même temps, je suis libre. Je peux me tourner vers la télé ou donner un grand coup de poing à la figure de type que j'aime pas. Ma vie peut s'orienter autrement. Ma vie n'est pas dépendante de la créateur de Dieu. Ok. À partir du moment où je réalise ça, je me pose la question, et c'est ça justement mon raccourci, je me pose la question, qu'est-ce que c'est ? D'où vient l'âme ? C'est-à-dire la source de ma vie. L'âme, c'est la source de ma vie. D'où vient l'âme qui n'est pas mon être ? D'où vient-elle ? L'âme, c'est bien évident que je comprends tout de suite, si j'ai touché l'existence de l'être premier dans ma démonstration et que je suis du coup uni à lui, je constate d'un seul coup que, en effet, c'est l'être premier qui est l'origine de la source de ma vie que j'appelle l'âme. Il me l'a donnée. Ce n'est pas un acte de création. C'est un don. J'espère que vous voyez la différence entre une dépendance vis-à-vis du Créateur et une dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui m'a donné quelque chose qui est à moi, qui dépend de moi. L'être dépend de la Créateur de Dieu actuellement, mais ma vie, mon âme, ne dépend pas de lui. Elle dépend de moi. J'espère donc que vous voyez la différence infini entre les deux, et que voyant la différence entre infini entre les deux, vous voyez que l'être premier, s'il est créateur sous le point de vue de l'être, il est également père du point de vue de ma vie. Il a engendré et produit et donné une âme spirituelle qu'il a incorporée à ma première cellule pour réaliser l'être humain. Parce que l'être humain a ceci de particulier lorsqu'il est dans le ceci de l'homme. Donc l'être qui est dans le ceci de l'homme a ceci de particulier que c'est, il réalise l'unité entre le corps, l'âme spirituelle. Ce qui fait l'unité entre le corps et l'âme spirituelle, c'est l'être. L'être est source d'unité entre le corps et l'âme spirituelle. Et source d'unité. Et donc l'âme spirituelle, elle est donnée par Dieu, infusée dans le corps, et cette unité vivante qui me vient de Dieu. Cette unité vivante entre mon âme spirituelle et mon corps me vient de Dieu. Ça va ? Et c'est ce que j'appelle la source de ma vie. Et là, de ce point de vue-là, du point de vue du fait que j'existe, je rejoins mon Créateur. Du point de vue du retour, de la reconnaissance, parce que j'ai une âme spirituelle, je rejoins mon Père. Dieu mon Père. L'être premier, c'est mon Père. Il m'a donné la vie. C'est très facile à comprendre. J'espère que vous me regardez comme des orang-outans, mais c'est vraiment simple. Hein? Bon. Alors, or, ça s'est passé qu'une seule fois. Comprenez? Comprenez, ça s'est passé qu'une seule fois. Il m'a donné, terminé. Mais comme il a donné, il se donne lui-même. C'est un acte d'amour. Là, créateur de Dieu, c'est un acte de toute puissance du point de vue de l'aide. Donc, il implique le point de vue du verum, de la totale vérité du don, de bonum, de la totale bonté et de la perfection acte et c'est de la perfection de cet acte de vérité et de bonté, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est vital. Et donc ce contact dans mon origine était un contact donc vital. Dans ma première cellule, j'ai eu une présence vivante, agissante, brûlante. À partir de l'éternité brûlante et vivante de Dieu qui a soudé mon corps et mon âme spirituelle dans mon corps. Et donc la soudure de ma vie intérieure et de mon corps était totale parce que l'acte créateur de Dieu est nécessairement parfait dans son mode. Étant donné que l'acte créateur de Dieu et la donation de la vie est nécessairement parfait dans son mode, eh bien, il est nécessaire que l'unité qu'il y avait dans la première cellule soit une unité absolue. Ah, oh là là! Et cette unité absolue, vivante, entre cette vie omniprésente, parfaite, amoureuse, bonne, vraie, lumineuse, éternelle de Dieu, dans mon temps, dans l'instant de ma création, elle est là, absolument présente dans ma première cellule. Et c'est elle qui va brûler ma mémoire ontologique, ma mémoire génétique. Ça va? Donc dans ma première cellule, je fais ma première cellule comme ça, avec du vert, un cercle vert. N'est-ce pas? Et dedans, en même temps, infusion absolument parfaite de l'âme spirituelle dans ma première cellule. En raison, couleur bleue que j'ai pas, en raison de la présence créatrice de Dieu. Présence vivante et créatrice. Ça s'est passé qu'un seul moment, hein, c'est tout. D'accord? Il m'a donné mon âme spirituelle, et puis j'ai dit, j'étais brûlé par l'amour, entièrement pris. Mon premier moment est, comprenez, c'est nécessairement, si Dieu est à l'origine du fait que j'existe et qu'il m'a donné la vie, ça s'est passé comme ça. Ça ne s'est pas passé de loin en disant, il n'a pas fait comme ça. Hop. Et puis, l'âme. Deux gamètes. Le plongeur là. Ça s'appelle Origène. L'origénisme, c'est condamné par l'Église, je vous signale. L'âme préexisterait, elle court, elle dit, hop, là, c'est pas mal, je vais me mettre là. Non, le contact est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire dans la donation de l'âme spirituelle. Aucun intermédiaire. Le toucher est donc vivant. C'est nécessaire. Sinon, celui qui dirait le contraire, c'est de l'imagination, c'est de la mythologie. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'induction, ni la démonstration de l'existence de l'être premier. Moi, je peux vous affirmer qu'une fois que vous l'avez faite, vous voyez bien que le contact est vivant. Il y a donc un sentiment, c'est pas exact de dire sentiment, il y a une impression métaphysique, d'unité totale de vie entre la pureté d'innocence de mon âme et la pureté vivante de l'intimité divine, de la vie intérieure de Dieu. Parce que l'univers, ça vient de là. Peu importe, toujours est-il que dans cet extase, dans ce ravissement, dans cette brûlure, Dieu va entendre mon oui, parce que je suis en contact à ce moment-là avec lui, à la fois dans le temps et dans l'éternité, donc je suis en lien corporellement avec mon origine et en même temps avec ma destination finale, puisque ma destination finale, c'est l'éternité divine. Donc j'ai connaissance, entre guillemets, c'est pas une connaissance, j'ai l'impression, je suis trempé dans mon corps, dans la première cellule, dans ce que je serai dans toutes mes cellules lorsqu'elles ressusciteront. Dans l'innocence corporelle d'un corps totalement spiritualisé. J'en ai une connaissance préalable, c'est à ce moment-là, comme dit le Saint-Père dans l'Évangile de la vie, que je suis inscrit dans le livre de vie.
infinie dans l'éternité. Et j'en ai connaissance. Et mon oui est alors de dire, mais oui, je veux bien passer de mon origine à cette humanité par tout ton désir, tout ton amour pour y arriver. Et je fais un oui personnel quelque part, qui est un oui très mystérieux, et qui permet à Dieu de me lâcher dans ma liberté, c'est telle est la liberté, pour que, sans que ce soit lui qui détermine cette brûlure absolue d'unité avec l'amour éternel de Dieu, sans moi qui y aille en courant, malgré tous les obstacles. Et c'est ainsi que, dans mon corps, se réalise une première séparation. Cette première séparation, alors ça c'est très important, parce que vous comprenez, c'est en fonction de notre origine qu'on va réagir. Et là, c'est l'origine ontologique de notre existence. Qu'est-ce qui se passe? On est brûlé. Suppose, par exemple, que tu aies une apparition. Et puis, l'Immaculée, brûlante, attention, glorifiée, celle qui brûle tout le diaphane de la Très Sainte Trinité, rentre en toi, tu te dis, mais c'est vraiment fantastique. Puis d'un seul coup, elle s'en va. Ah, tu as envie d'y retourner. Il n'y a plus rien. Tu as envie d'y retourner. Voilà ce qui s'est passé. Tu comprends? Un premier step. Sauf que tu en es incapable. Tu en es incapable puisque tu ne peux pas faire un acte d'intelligence contemplatiste, tu ne peux pas faire un acte d'amour, tu n'as pas les organes correspondants, tu es dans une première cellule. Il y a une première séparation. Première séparation. Et cette séparation, c'est une séparation d'amour qu'on appelle la séparation de l'amour séparant de Dieu. L'amour séparant de Dieu permet à ma liberté de ne plus dépendre dans mon âme de Dieu. Et je ne dépends plus de Dieu que du point de vue de l'être, mais plus du point de vue de l'âme. Ça m'est donné. Et donc c'est à moi, par ma vie, par mon âme et ma liberté, de remettre toute ma vie par amour dans la dépendance de Dieu et dans l'unité profonde avec Dieu. Cette première séparation va provoquer toute une série de nostalgies. Parce qu'il est évident que tu reçois, quand tu es brûlé par un amour, mais plus qu'infini, tu t'y attendais absolument pas, même dans ta vie courante quand c'est comme ça. Et d'un seul coup, le mec, il fout le camp. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, t'as la nostalgie. Alors si ça arrive avec ton petit chien, tu penses bien qu'avec Dieu, c'est tout autre chose. Et c'est ça qui explique tous nos problèmes, toutes nos nostalgies. Il va y avoir, étant donné qu'il y a 7 grandes manières de réagir à cet amour séparant de Dieu, il va y avoir 7 grandes nostalgies. Il faut rajouter à cela, et soyez attentifs s'il vous plaît. Il faut ajouter à cela que dans la cascade de la généalogie de l'homme et de la femme, nous recevons des torrents de miasmes qui viennent entacher, si je puis dire, notre innocence divine, comme une tache vient dans un buvard, et que le diamant de l'innocence divine qui est là, et qui est cette dynamique du oui, qui ne demande qu'à se répandre tout le temps, corporellement, vitalement, spirituellement, existentiellement, surnaturellement, etc., il est pris par un magma, une gangue, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, immédiatement, en raison du péché originel. Ah, attention, ici, ça, le philosophe dit ça, en raison des traditions religieuses. Alors, vous pouvez le dire en raison de la foi, mais moi, ici, je préfère regarder philosophiquement. Donc, philosophiquement, les traditions religieuses disent qu'il y a aussi le péché originel. Il n'y a donc pas seulement l'amour séparant, et il y a en plus une séparation supplémentaire qui fait que cet amour séparant me fait réagir par des nostalgies qui structurent toutes les dimensions de l'homme en moi dès le premier moment, premièrement, et deuxièmement, qui induisent en moi, à cause du péché originel, cette réaction négative. Cette réaction négative par lesquelles je participe personnellement dès la première cellule au péché originel. C'est pourquoi il faudra le baptême pour m'en faire dégager la tache en l'âme. Donc il va falloir distinguer dans les nostalgies ce qui vient de l'amour séparant de Dieu et qui est naturel et qui est normal, et ce qui vient de ma participation au péché originel en raison de sa présence dans l'atavisme, de manière personnelle. Il va falloir que je distingue avec vous, dans les nostalgies qui expliquent la réaction heideggerienne, les nostalgies, il va falloir regarder ces nostalgies. Et je dis, moi, que l'approche de Heidegger, l'approche métaphysique contemporaine, est une approche qui est immobilisée en raison de cette nostalgie. Attention. On passe à l'étape suivante. Est-ce que vous avez tout compris? Il y a 7 dimensions dans l'homme. Tout de suite, et dès la première cellule. Pourquoi? Parce que j'existe. Dès la première cellule, j'existe. Dès la première cellule, la vie intérieure m'est donnée. Dès la première cellule, elle est infusée dans un corps. Dès la première cellule, je dépends de l'acte créateur de Dieu. Dépendance. Dès la première cellule, je suis le fruit d'un acte créateur de Dieu à partir de rien. Création. Créateur. Je suis modelé d'une certaine manière. J'ai une identité qui m'est propre, individuelle, et qui m'est propre, et ça c'est le fruit de l'acte créateur artistique de Dieu. Il y a 1, 2, 3, 4, 5... Je suis créé dans le sein de ma mère à partir de l'unité sponsale et à partir d'un matériau génétique. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez bien où est le septième, aidez-moi pour le septième. Et enfin, je suis créé spirituellement. J'ai un esprit. Je suis créé dans la lumière. Voilà les 7 caractéristiques de la créateur de Dieu dans ma première cellule. Indéniable. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, alors là, ça on peut se bagarrer, je peux vous affirmer que ça m'étonnerait que... Et si vous trouvez une huitième, vous m'intéressez. Parce que ça fait à peu près 3000 ans qu'on cherche une huitième dimension, on ne l'a pas trouvée. Hein. Bon, alors, voilà. C'est pour ça que l'homme travaille. C'est un artiste. C'est pour ça que l'homme est contemplatif. Il est spirituel. Il a une intelligence. C'est pour ça que l'homme a une vie intérieure. Il a une âme. C'est un grand vivant. Il a une vie intérieure. C'est pour ça qu'il est une partie de la nature et il est responsable de l'univers. Il y a une dimension naturelle entre lui. Et c'est pour ça qu'il est une partie d'un corps mystique familial. Il a une vie sociale. Voilà pour l'unité sponsale. C'est pour ça qu'il a une dimension religieuse. Dès le départ, il dépend de la créateur de Dieu. Ah. Et comme il existe, il a une soif, dès le départ, de perfection. Et donc, il est attiré par le bien. Nous sommes donc fondamentalement appelés à un bien métaphysique, à un bien, à un amour qui dépasse le point de vue de la vie, qui dépasse le point de vue de l'horizon spatio-temporel, c'est pas ? Nous sommes appelés à la vie contemplative, nous sommes appelés à avoir une vie intérieure, nous sommes appelés à être responsables de la nature tout entière à travers le corps, nous sommes responsables de la présence de Dieu, nous sommes responsables de la perfection de cet univers par notre travail, en apportant une perfection supplémentaire, par notre art, notre travail, nous sommes responsables de ceux qui sont autour de nous dans le corps familial. Voilà les 7 dimensions de l'homme. Et ces 7 dimensions de l'homme, comme je viens de vous dire, dans la première cellule, se réalise absolument parfaitement dans une innocence, dans un épanouissement, dans un dynamisme. Je suis totalement dans la créateur de Dieu, dans une union avec ma mère, avec mon père de la terre, avec mon père créateur, avec tout diaphane de la grâce qui inspire toute la création et tout l'univers et toute la Jérusalem d'en haut et l'éternité et le temps. Je suis Je suis dans un espèce de travail, je participe par mon oui à ce travail de l'individuation. Parce que c'est pas pareil si je fais cette peinture-là ou une autre peinture. Je participe, je suis créateur dès le départ de ma propre, du travail créateur de Dieu par rapport à ma propre individuation, selon ma manière de dire ce oui dans la présence vivante et brûlante de Dieu. Je suis tout de suite dans un état de dépendance totale, vitale, corporelle, d'omniprésence vis-à-vis de la créateur de mon Dieu et de mon Père et de mon Créateur. Avec mon corps, je suis lié à l'omniprésence de Dieu et je suis présent à tout ce qui est corporel dans l'univers et à tous les corps et à tous les temps, etc. Et vous pouvez continuer comme ça. Et l'amour séparant de Dieu vient d'un seul coup catapulter cette espèce d'état idéal qu'on appelle l'innocence originelle, qui est mon vécu primordial, qui est mon premier moment d'existence. Et il me laisse continuer à dire oui personnellement, librement, pauvrement, doucement, et avec mes propres forces. C'est pourquoi le Christ, Dieu lui-même, quand il a pris un corps, il a dit, je le fais pauvrement et doucement. Les deux qualités que Jésus dit par rapport à son activité, c'est l'humilité, la pauvreté et la douceur. Je suis doux et humble de cœur. Et à ce moment-là, il va falloir que je gère cette séparation, cette béatitude d'origine. Cette gestion va se faire selon que mon oui, selon que j'ai été extrêmement sensible à cet aspect d'unité avec mon Créateur, cet aspect d'unité, le troisième, le quatrième ou le septième, selon que mon oui, vous voyez, parce que le dosage de mon oui est différent selon les sept dimensions de l'homme qui sont en moi. Et quand le Créateur, donc, reste présent dans le fait que j'existe, continue à m'attirer, et que mon dynamisme d'innocence à travers le moindre cellule de mon corps continue à dire « oui encore !» mais qu'il est bloqué par la gangue du péché originel, il reste quand même qu'il a des plis, dès le départ, qui l'orientent dans cette direction pour rejoindre Dieu, ou dans celle-ci, ou dans celle-là, ou dans un panaché. Et c'est ce qui va caractériser la structure profonde, vitale, de l'individu et de la personne, spirituellement, dans sa nostalgie métaphysique. Il faut donc que vous puissiez reconnaître, chacun d'entre vous, là où domine votre nostalgie métaphysique. Là où, et cette nostalgie métaphysique, elle va dominer en raison de la nature de votre oui dans la première cellule. Ça ne peut pas être autrement. Alors, vous avez le tableau à cette colonne, n'est-ce pas? Nous avions vu ça avec quelques-uns, là, et les intelligences de pointe en Lituanie. Comment on appelle ça? L'avant-garde, hein, l'avant-garde. Alors, vous avez remarqué, je vais vous les citer les uns après les autres. Je crois que c'est pas la peine que je fasse la démonstration. Il faut simplement que vous verrez que toutes ces nostalgies profondes, qui est-ce qui n'a jamais eu le tableau? Oh là là, mon Dieu. Non, mais ça, vous l'avez eu. Tableau à cette colonne. Dimension, j'aime. J'aime. J'ai soif du bien. Je suis attiré par un autre que moi. L'homme est la seule réalité dans notre univers qui trouve sa signification et sa réalisation en tant qu'homme dans un dépassement de lui-même. Ce n'est pas le cas de la vache. Ce n'est pas le cas non plus de la fleur. C'est la seule réalité que nous constatons dans l'univers, remarque d'Aristote, qui soit finalisée par un dépassement, une sortie de lui-même. Voyez, voilà. C'est quelqu'un qui a une deuxième dimension de l'homme, c'est il lui est confié l'ensemble de l'univers pour le perfectionner par son génie et par son travail. Il doit transformer l'univers et il est à l'avant-garde de cette transformation. Le monde doit devenir différent. C'est un monde nouveau. Il faut être poète. Et sans poésie, on ne transformera pas le monde. Et il faut que la poésie, elle prenne cette puissance créatrice de Dieu efficace, de transformation, de désagrégation du mal et de splendeur. Et ça dépend de moi. L'être humain est esprit. Il est là pour être contemplatif et pour prendre Dieu tout entier dans le don qu'il fait de lui-même, et je le reçois dans la vie contemplative pour m'en nourrir à jamais dans la lumière de gloire. L'être humain est un être qui vit de manière naturelle par son corps. Par son corps, il est en contact avec tous les corps qui sont dans la nature. Son corps est une récapitulation de tous les corps. Et chacun des corps qui sont présents dans l'univers sont en lien physique avec le corps de l'homme. Et donc, il est partie de la nature et il est en même temps source et centre de l'univers créé. L'homme est vivant. Il a une vie intérieure et sa vie intérieure est caractérisée par la lumière. L'homme est un être qui rayonne par sa vie intérieure à cause de son âme. L'homme doit être une source de rayonnement, une source de présence rayonnante. Il est une sphère à lui tout seul de glorification. Voilà pour la vie. L'homme, pour la vie intérieure, l'homme coopère avec ceux qui sont proches de lui. Il est solidaire. Il forme un corps social. Et il réalise le bien commun pour que tout se passe dans l'harmonie et dans un corps mystique pour toute l'humanité. L'homme, enfin, adore son Dieu. Il dépend de son Créateur, il est celui par qui l'univers est relié à son Créateur. Dans ses mains, il n'y a rien, mais au moins, il y a Dieu. Si dans ses mains, il est plein de lui-même, il ne dépend que de lui-même. Et si dans ses mains, il n'y a rien, il ne reste plus que Dieu dans ses mains. Et à ce moment-là, grâce à lui, l'univers tout entier qui n'adore pas est en relation avec son Créateur. Il est le lien de dépendance, le paratonnerre, le lien qui permet à l'univers de continuer de subsister dans l'unité du diaphane de l'univers, dans l'harmonie de tous les vivants. Voilà les sept dimensions de l'homme. Voyez bien. Et c'est à cause de ça qu'on se pose tellement de questions. Et sachez bien que le corps de l'homme, une fois qu'il est organisé, qu'il commence à devenir un petit enfant de 2 ans, 3 ans, etc., il va être structuré par des manières de toucher les choses concrètement par le corps qui sont dans la ligne. C'est pourquoi nous avons 7 puissances de sensibilité externe qui nous permettent d'être en contact avec toutes les réalités existantes, dans toutes les modalités avec lesquelles ces réalités existantes se réalisent. C'est pourquoi, par exemple, j'ai le sens de l'odorat. J'ai le sens de l'odorat, pourquoi ? Parce que le sens de l'odorat, qui structure quelque part ma manière d'appréhender les réalités, me met dans un état corporel d'attente par les sens, la sensibilité externe, semblable à celui de l'amour. Parce que par l'odorat, vous le savez bien, c'est pas, vous avez une odeur, elle est ailleurs, et vous êtes attiré par quelque chose d'autre que vous. Vous voyez ? L'odorat. L'odorat est un petit peu dans la ligne de l'amour. Voyez bien, ça c'est clair. Vous avez le point de vue donc de lui. Le fait que vous ayez lui, il y a quelque chose qui pénètre en vous dans lui, qui vous met quelque part un sens d'harmonisation entre l'extérieur et l'harmonie de l'extérieur et votre intérieur et votre harmonie intérieure. C'est le sens donc de l'artiste qui est là. Lui, c'est sûr. C'est bien que c'est celui qui est très artiste, il a un sens musical très. C'est sûr. Le sens du toucher. Bon, ben le sens du toucher, c'est évidemment lié au point de vue donc de la nature. Je touche le chêne, je touche l'hippopotame, je touche Bernard. Donc, je touche Dieu. Je touche Jésus. Vous comprenez ? Alors, ça, c'est le sens du toucher. Le sens du toucher. C'est autre chose. La dépendance, ça va être autre chose, comme tu peux le voir sur Oui, je ne dis pas. Je ne dis... Chacun des sens externes, odorat, toucher, oui, goût, sens commun et cogitatif, bon, quel qu'il soit, est en lien avec les sept dimensions de ma vie. Mais il y a quand même un mouvement corporel qui se met en branle corporellement en raison de cette puissance de sensibilité externe, qui est semblable analogiquement, c'est pour ça qu'effectivement on peut discuter, au mouvement spirituel de l'homme. Et là où c'est le plus clair, c'est pour le sens de l'odorat. Hein? Mais c'est évident que, par exemple, le sens où le corps est le plus lié aux autres corps, c'est le sens du toucher. C'est pour ça que je préfère personnellement le mettre ici. Il y a également, c'est pour ça que la cogitative, qui est une manière de réaliser la présence externe des réalités existantes en moi, en lien avec ce qui structure la substance des choses, je le mettrai plutôt du côté du point de vue, donc, de la transcendance. Hein? D'accord? C'est pour ça que je pense, mais ça se discute, évidemment, un tableau, cette colonne, c'est pour s'amuser. C'est pas pour s'amuser. Mais c'est pour comprendre que tout ça, c'est extraordinairement harmonieux. Et le but de ce que je veux faire ici avec vous, mais j'ai bien le malheur de comprendre à vue l'heure, que je ne vais pas pouvoir, alors que je voulais le faire. Je voulais vous exprimer quelles étaient les nostalgies. Et je voulais vous faire un examen de conscience pour savoir laquelle de ces sept nostalgies domine en vous. Alors, attention, on continue quand même. Vous voyez bien que le sens de la vue, c'est trop clair. Le sens de la vue me permet d'être en contact avec la lumière. La lumière pénètre en moi par le point de vue de la vue. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui a une vie intérieure illumine. Ça, c'est à cause de ça qu'effectivement, quelqu'un qui a une vision intérieure, qui a cette vision intérieure rayonne. Le bouddhiste rayonne parce qu'il a une vie intérieure, même s'il n'est pas croyant. Il croit que Dieu n'existe pas. Mais il vit très profondément de l'âme. Alors il rayonne. Vous voyez ? Etc. Etc. Ah, le goût. Ah ben le goût. Le goût, c'est à l'intérieur de la maison, n'est-ce pas ? À l'intérieur de la maison, un mélange de saveurs, etc. Un doux mélange, puisque on sait bien que je crois que c'est la cuisine, c'est l'art des mélanges. Quoi, c'est ça, l'art culinaire. Ça. Bon, eh bien oui, le goût. Et il y a plusieurs choses qui forment finalement un seul goût. Plusieurs éléments. De même que nous sommes plusieurs à réaliser une seule nourriture, nous sommes plusieurs à réaliser un seul corps mystique. C'est sûr que le goût structure très profondément. C'est pour ça que le repas rassemble la communauté familiale, la communauté sociale et un corps mystique. C'est pour ça que Jésus a institué le lieu de l'unité de la saveur eucharistique à partir d'un repas. Bon, peu importe. Donc, on continue. Et tout ça, vous voyez bien qu'il y a des lois, au fond, de la nature. Pardon ? La vie, c'est la lumière. Donc, c'est plutôt au point de vue de la vue. C'est la lumière. Je viens lumineux. L'âme, c'est une lumière vivante. C'est une source de lumière vivante. Et donc, dès que tu as une vie intérieure, ça y est, tu vois intérieurement. À ce moment-là, c'est très lié à la vue, le point de vue de l'âme. La dimension de notre vie intérieure. Pardon ?
La vue, c'est plutôt lié, la vie est plutôt liée à la vue.
Ah oui, moi il me semble.
Et l'esprit parce... a...
Ah, le point de vue de l'esprit, eh bien au sens commun. L'esprit rassemble, hein. L'esprit rassemble, c'est beaucoup plus le sens commun. C'est le bon sens, ce que je vous ai appelé le bon sens. Bon sens rassemble ce que me donnent les cinq sens externes. On appelle ça le sens commun, il y a un organe hein, qui correspond dans le cerveau, au sens commun. Alors on voit les yeux, mais on ne voit pas l'organe du sens commun. Mais ça n'empêche qu'on a un organe du sens commun. Ça, c'est trop clair. Bon, en raison de quoi ? Il va y avoir quelque chose de très curieux. Et je vous réfère au tableau, ici, pour que vous puissiez réfléchir, parce qu'il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Alors, attention, je réclame toute votre attention. Mais on va approfondir la prochaine fois, parce que la prochaine fois, je veux absolument voir la différence qu'il y a entre la blessure, entre guillemets, blessure saine, blessure normale de l'amour séparant du Père créateur et donateur de vie, sur laquelle vient se rajouter des blessures pécamineuses en raison de ma réaction de révolte.
en raison de ma participation au péché originel. Il va falloir qu'on distingue donc 14. Vous vous rendez compte comme discernement? Il va falloir qu'on distingue jusqu'à 14 manifestations de ce qui s'est passé comme conséquence dans l'instant qui a suivi les premiers moments de mon existence en ce monde. Et ces 14 impressions anagogiques structurent toute ma manière actuelle de revenir au point de vue de la vie, de l'être, de la nature, de ma responsabilité vis-à-vis du monde, de ma participation à la vie mystique de l'humanité, de ma relation avec mon Créateur. Donc cette prise de conscience est très importante parce que je prends conscience par là, et vous allez voir à quel point ça me paraît clair. Je prends conscience par là pourquoi je suis dans un état semblable aujourd'hui à l'époque heideggerienne, à cet état dans lequel j'étais tout de suite après ma première cellule. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je suis dans une civilisation qui s'est individualisé. Ipsolipsisme transcendantal. À l'état de système. C'est un état de système. C'est normal. Individualisation, ipsolipsisme transcendantal. Suppression de toute possibilité de trouver quelconque épanouissement, sinon tu as l'air d'un con, et on te met à l'hôpital psychiatrique. Et ça, je vous dis que c'est vrai, hein. Je peux vous dire que si vous vivez totalement de ça, on vous interne. C'est dans les lois. Hein. C'est dans les lois françaises. Je pourrais vous donner plusieurs exemples. Et ça marche très bien. Bon. Deuxièmement, les idéologies ont suicidé le point de vue de l'intelligence contemplative. On est imbibé des idéologies, plus aucune possibilité de s'en sortir ici. C'est le phénomène collectif de l'humanité. Troisièmement, l'athéisme est devenu un fait et un droit. Et non seulement un fait et un droit, mais un devoir de l'humanité contemporaine. Comme dit Feuerbach, n'est-ce pas, et comme disent tous les penseurs. Et la preuve, c'est qu'on va dire, il faut être tolérant. Et tu n'as pas le droit de dire que tu as la foi. Sinon, tu mets un voile, pour aller à l'école. Tu n'as pas le droit. La dépendance vis-à-vis de Dieu n'a plus le droit de citer. C'est devenu, j'allais dire, un délit. C'est depuis longtemps, depuis 1905, je vous signale que le moine n'a pas droit de citer, d'après la loi, sur la terre métropolitaine de France. On a simplement suspendu les décrets d'application de la loi de 1905. Il suffit qu'il y ait un espèce de scribouillard qui arrive, pas besoin qu'il soit une espèce de scribouillard qui arrive, et puis qu'il remette un décret d'application, même pas besoin d'un vote au Parlement. Je n'ai pas le droit, moi ici, en tant que moine, c'est moi qui vous parle, je suis hors la loi. Je tiens à vous le dire, d'après la loi française. Mais ça peu importe. Même si j'étais pas hors la loi, c'est évident que l'athéisme est absolu. Et même dans votre esprit, même dans le vôtre. Puisque vous dites, ben oui, il n'est pas croyant, après tout, il n'est pas croyant, ben c'est pas de sa faute, c'est normal. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer les ayatollahs. J'ai pas dit ça. Mais ça n'est pas normal. Troisièmement, le corps spirituel, tout le monde éclate de rire. Le corps spirituel, qu'est-ce que c'est cette histoire? Corps spirituel, qu'est-ce que tu sors tout le corps spirituel? Corps spirituel. Bon. Je suis en train de me foutre du verre partout, non? L'âme pénétrée dans la lumière, puis cette lumière qui actue cette lumière, et le diaphane qui unifie cette lumière intime,
et qui met en relation avec la lumière qui active le diaphane cosmique, tout ça, le petit véhicule, le grand véhicule. Ouh, d'accord, c'est comme les dervis musulmans, c'est comme, comment dire, Mohamed qui prend la jument mystique pour aller à Jérusalem, tout ça, bon, bref. Allez, non mais c'est vrai, ça faut pas déconner. La vie, l'âme, c'est désuet. Mais ne parlez pas d'âme à des gens sérieux. Pas être timbré. Vous comprenez? Ah, l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors là, n'en parlons pas. C'est même pas la peine. Alors là, ça fait déjà 6 siècles que c'est terminé, ça. Alors, il ne reste plus que rien. Vous comprenez l'angoisse? Il reste là. Il reste rien. Angoisse. Il reste, du coup, je vais écrire un poème, je vais faire une peinture, je vais faire l'idiot. Et d'ailleurs, je vais pouvoir faire que de la théologie que si je suis un guignol. Sinon, ça passera pas. Non, mais on est vraiment tombés, vraiment sur la tête, les mecs. Bon. Vous comprenez, on se trouve donc dans une situation actuellement qui est semblable à celle dans laquelle je me trouve immédiatement du point de vue de l'impression vitale, métaphysique, corporelle, de l'impuissance par rapport à mes capacités personnelles, etc., cette espèce d'odeur de l'amour séparant de Dieu. Alors, à cause du péché originel, il est bien évident qu'à cause du péché originel, qui vient frapper, normalement, s'il n'y avait pas le péché originel, mon oui continuera en me disant, ben d'accord, c'est rien, mais je fais le saut dans l'amour, la lumière, la vie contemplative. Je garde, reste en attente, pauvre, doux, tranquille, pensant. Mais le péché originel étant là, oh là là, bref, qui vient comme une gangue, et quand même, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et la révolte arrive, la colère. Et se surajoute donc cette réaction négative. Et c'est pourquoi il faut faire aujourd'hui la métaphysique en passant par le point de vue des nostalgies métaphysiques. Pourquoi? Parce qu'on rejoint exactement le ceci dans le Est. Et ça va me permettre de dégager le Dasein du ceci, du Est. Chose qui est impossible à Heidegger parce qu'il n'a pas compris que son existentiel d'angoisse vient de cette nostalgie métaphysique dans la première cellule. C'est uniquement à cause de ça. Donc je veux revenir à ça. Et je regarde et je vois. Hop! Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est important, hein, ça. Hein? Faites gaffe, hein? C'est vachement important, ça. Hein? Bon, on va y revenir. On va mettre ça, on va tourner ça de tous les côtés. Hein? Vous inquiétez pas, ça. Coca-Cola ou pas. Bon. Il faut absolument qu'on touche ça. Parce que vous savez, les métaphysiciens qui disent que la mémoire ontologique n'existe pas, ils deviennent stériles. Et ça, j'en ai l'expérience. Et nous faisons la philosophie de l'expérience. Alors, il y a... Non, je ne dis personne ici, personne n'est visé, évidemment. Personne n'est visé. La mémoire ontologique, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est l'origine cellulaire. Alors, vous avez 3 lignes. Et vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas le tableau, ceux qui l'ont, je vais distribuer. J'ai distribué au moins 500 exemplaires. Je comprends rien. C'est notre instrument de travail. Quand même, depuis 6 ans que ça dure, c'est notre instrument de travail. Alors, vous verrez qu'il y a 3 lignes importantes pour comprendre. Premièrement, il y a les ébranlements profonds. Après la première cellule, je suis profondément ébranlé. J'ai touché vitalement cette unité de l'être dans l'unité du corps et de l'âme spirituelle parfaite. Donc, c'est le seul moment où l'être et la vie sont quelque part dans le même toucher. C'est le seul moment de toute mon existence où ma vie et mon être, c'est la même chose. Le seul. Puisque ma vie dépend de la présence créatrice du Père, donateur de vie, et mon être dépend de la créateur de Dieu. Donc, ils ont la même signification. J'ai la même appréhension spirituelle du point de vue de la vie, du point de vue de l'être. Aujourd'hui, vous savez bien, je viens de vous l'expliquer, la vie et l'être, c'est deux choses totalement différentes. C'est le seul moment où j'étais dans un état d'ontologie absolue. Puisque l'ontologie, c'est confondre la vie et l'être. Ontologie. Et aussitôt, ma vie doit s'exprimer librement pour entrer par amour, spirituellement, corporellement et avec toute la création, dans l'unité vivante et glorieuse avec le Père. Et avec l'intimité du Père qui est son Fils, et avec son amour créateur qui est l'Esprit Saint. Alors c'était vraiment profond et là, tout de suite. Et du coup, elles trahissent, deuxièmement, mes limites. Je découvre, tout de suite après l'illimité, je découvre immédiatement mes limites. Les limites de la manière, le pos. En grec, le pos, c'est la manière, le comment. Comment, pos. Comment mon être va se réaliser d'une manière limitée. Donc les limites du pos de mon être vont se caractériser de cette manière différente. Et du coup, descriptivement, métaphysiquement, toute ma vie, je vais avoir une odeur, dès que je m'approche du monde spirituel, du monde de l'autre, du monde de l'être, du monde du jugement d'existence, du monde de l'induction, du monde de l'amour spirituel, du monde de la communion des personnes, du monde de la grâce, du monde de la transcendance. À chaque fois que je m'approche de ce domaine, descriptivement, il va y avoir une odeur nostalgique, métaphysique. Descriptivement, je vais ressentir quelque chose. Ça va se traduire dans mon âme. Les limites du pose de l'être, c'est spirituel, c'est l'esprit, c'est le point de vue pneumatique, l'esprit. Les ébranlements profonds, c'est à la suite de l'arrachement du point de vue de l'être et de la vie, à partir de l'innocence divine, et du coup, au niveau de la psyché, c'est-à-dire psyché, c'est-à-dire au niveau de ma psychologie, des odeurs qui se trouvent dans mon âme, les nostalgies. Voyez les trois lignes que vous avez. Donc descriptivement, eh bien ça dépend. Vous êtes, on a tous, hein, les sept nostalgies sont. Descriptivement, vous avez quoi? Dès que vous vous approchez de réellement, hein, il faut que ce soit une approche réelle, il ne faut pas que ce soit une approche imaginative, hein. Dès que vous vous approchez de la recherche de la vérité, du monde de la vérité, de l'amour, de la vie, de l'être, du créateur, de l'éternité, de la vérité, quoi, enfin. Alors, il y en a qui sont là et qui vont éprouver une espèce d'odeur de, vous l'avez ici, de désespoir. Il y a comme quelque chose, à partir de là, qui se réveille, mais un certain désespoir profond. Monte. C'est vrai? On a tous un peu ça. Hein. Parce qu'on était peut-être dans ce premier moment-là. Rappelez-vous. Mettez-vous à ma place. Ça. Quand j'étais à ce premier moment, je suis désespéré. Il est parti. C'est un désespoir profond. Et il y a comme... Attention, vous voyez, ce n'est qu'une odeur. C'est pas du désespoir. C'est une odeur. C'est une nostalgie métaphysique. Vous voyez bien, descriptivement, je peux décrire ça comme une odeur de désespoir. Si je suis artiste, ça c'est si j'ai été très impressionné extatiquement par le ravissement d'amour de Dieu. À ce moment-là, c'est vrai que quand l'amour séparant arrive, je suis désespéré. Ça ne veut pas dire que j'aime plus. Mais c'est mon amour s'intensifie en s'exaspérant lui-même dans le désespoir. C'est sa manière de retrouver celui qu'il aime. Alors à ce moment-là, ce sera quelqu'un qui sera beaucoup plus aimant dans sa vie, qui a le sens de l'amitié. Celui qui va réagir dans la deuxième dimension, alors, voyez bien, il va sentir beaucoup plus la question donc de l'insatisfaction, de la folie. Oui, dès que je m'approche en tant qu'artiste, quelqu'un qui, des gens qui sont très artistes, qui commence du coup à enquêter, à s'intéresser, à s'enquérir de la question métaphysique, à ce moment-là, au point de vue spirituel, ils ressentent une très grande insatisfaction. Et en même temps, s'ils veulent s'investir dans le domaine spirituel, dans le domaine métaphysique, ou dans le domaine religieux, ou dans le domaine d'une amitié perpétuelle, eh bien, ils éprouvent une insatisfaction, et ils éprouvent comme une espèce d'instinct de rentrer dans une espèce de vitalité un peu folle, la folie. C'est vrai. Prenez Van Gogh, prenez les artistes que vous connaissez. Hein, l'insatisfaction et la folie structurent métaphysiquement les nostalgies métaphysiques d'un grand artiste. C'est d'ailleurs grâce à cette insatisfaction qu'il va créer à nouveau pour rendre plus parfait à sa manière le monde qui l'entoure. Il y a le sentiment également de peur. Que je vous ai expliqué tout à l'heure, la peur est lié à l'intelligence. Oui, il y a comme, quand je m'approche, donc si je suis très contemplatif, si je suis une intelligence très aiguisée, j'ai un peu peur. Une odeur de peur. Enfin, c'est très Heideggerien, ça. Hein? Mais grâce à cette peur, je suis toujours en attente. Vous voyez, quand vous avez peur, ah, c'est là, hein, un serpent qui tchouf, très de vous. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas angoissé, puisque vous savez qu'est-ce qui vous, vous savez très bien qu'est-ce qui vous fait peur. Donc vous n'avez pas d'angoisse, mais vous êtes en attente, vous attendez. Et c'est grâce à ça que vous regardez, votre intelligence s'éveille. Sans cette peur, votre intelligence ne serait pas éveillée. Et puis, si vous avez, ah oui, quelqu'un qui a le sens du corps, le sens de la nature, et le sens du cosmos, le sens de la beauté des gorges du Verdon, des Alpes, hein, des océans, de la fin du monde, à la Baltique, etc. Et il est là, il a le sens de la fleur, il a le sens du petit oiseau, il a le sens des arbres, il a le sens du soleil, il a le sens il a ce sens que tout ça, ça vibre en lui, qui vibre avec. Hein. Et bien c'est vrai que s'il s'approche de tout ça, s'il s'approche du monde métaphysique, en allant plus loin à partir de cet amour, cette identité, cette identification, cette communion, cette harmonie avec la nature, c'est vrai que s'il va plus profondément pour toucher donc l'origine de l'un et de l'autre, lui-même et de la création, c'est vrai, il y a ce phénomène que vous savez ici, c'est qu'il va prendre toutes les choses qui lui arrivent au tragique. Et ça, c'est vrai. Une odeur de tragique. Il y a quelque chose de tragique, c'est tout à fait vrai. Dans le monde d'aujourd'hui, quand on se trouve dans la nature, et au lieu de sentir un sentiment de paix, comme on aurait senti dans une intelligence éveillée, un cœur éveillé, une vie intérieure et qui spiritualisée, etc., un corps pleinement ouvert, eh bien, à cause de ça, à cause de l'angoisse heideggerienne qui est la nôtre, on est dans une situation tragique, c'est vrai. Prenez la jeunesse d'aujourd'hui, qui est celle la plus proche de cette qui a soif que les choses ne soient pas artificielles et qu'elles soient naturelles, eh bien, leur situation, elle est tragique. Métaphysiquement, c'est tragique. C'est sûr. C'est sûr. Pourquoi ? Parce que la nature s'est entièrement pervertie dans l'artificiel. Ensuite, vous avez le point de vue de l'isolement. Eh oui, du coup, je me replie. À cause de l'angoisse, je me replie sur le point de vue de la vie. Me repliant sur le point de vue de la vie, vous comprenez bien que actuellement, c'est pas une vie spirituelle. Donc, je me replie sur une vie psychologique. Et je rentre dans la névrose, la psychose, l'ipsolipsisme, la métapsychique. Et le point de vue métapsychique, je vais voir, je sais pas quoi, je vais me faire déboutonner les chakras pour me sortir quelque part et qu'il n'y ait plus que la vie, n'est-ce pas? Et qu'il n'y ait plus cette lumière, les énergies et compagnie. Et à ce moment-là, je vois que finalement, je tombe dans une odeur, et de plus en plus, dans le métaphysique d'isolement. Et en plus, en fait, il va y avoir un autre aspect, c'est l'indifférence vis-à-vis des autres,
il faut, je sais pas, il m'indiffère. L'indifférence. Cette espèce de nostalgie profonde que finalement, oui, c'est vrai, l'autre devrait l'aimer spirituellement, dans sa personne, dans son être, dans sa perfection, dans sa plénitude, mais quelque part, je ne peux pas échapper à une espèce d'odeur d'indifférence. Mais finalement, je ne sais pas, je voudrais bien, mais il m'indiffère quand même. Enfin, vous avez le point de vue du refoulement, qui est par rapport à l'adoration, par rapport à la religion, eh bien c'est sûr que c'est peut-être vrai, c'est peut-être exact, je suis peut-être d'accord, mais quelque part, il y a le refoulement de la dépendance vis-à-vis du Créateur. Il y a une envie, quelque part, de ne pas dépendre de lui. Bon, bref, tout ça, c'est quelque chose de descriptif. Vous sentez qu'on a tout ça qui se bouscule en nous. Dès qu'on s'approche du ceci est. On a toutes ces nostalgies. Et c'est pour ça qu'on est si mal à l'aise. Mais ce mal à l'aise, c'est un espèce de rappel de notre initium, puisque dès que je touche le point de vue de l'être, je touche le point de vue où, dans l'être, j'étais lié à l'être vitalement, où mon âme spirituelle se liait avec mon corps substantiellement. Et c'est pour ça que ce premier moment rejoint les nostalgies métaphysiques d'aujourd'hui. Et ceci continuellement. Vous voyez bien que ce n'est pas conservé par mon intelligence, ce n'est pas conservé par mon cœur, c'est conservé corporellement, c'est conservé également métaphysiquement. Vous avez, il faut donc regarder un petit peu ce que ces nostalgies trahissent. Ces nostalgies trahissent ma limite particulière à moi de me réaliser personnellement dans ma manière d'exister en tant qu'homme. Alors, c'est tout le problème de savoir si c'est quelque chose qui s'est produit naturellement ou pécamineusement. C'est tout le problème. Ça, c'est justement toute la petite. Et alors, vous avez ici, là, les limites du poste de l'être. Eh bien oui, c'est vrai, vous avez à l'intérieur de vous, si on regarde pas psychologiquement, mais si on regarde intellectuellement, si on regarde de manière contemplative, sérieusement, froidement, ce qui se passe à l'intérieur de nous, je découvre que je suis fondamentalement dans la honte. Il y a un égoïsme fondamental, et c'est ça qui... je suis honteux. C'est vrai, quand j'étais dans l'amour de Dieu... j'étais pleinement valorisé. Et d'un seul coup, amour séparant de Dieu, j'ai l'air d'un con. Vous comprenez ? Je suis honteux. C'est une espèce de honte. Ce n'est pas une honte psychologique, puisqu'il n'y a pas de psychologie dans la première cellule. Mais c'est une honte, je me trouve égoïste, finalement. J'étais dans l'amour complètement axé par l'amour de l'autre, Dieu. Et d'un seul coup, je me trouve tout seul. Et je m'en désespère. Donc je découvre cet égoïsme foncier. Et j'en ai honte. J'ai une odeur également de mort. C'est ce qui explique, d'ailleurs, cette odeur de mort. Mon être et ma vie, j'ai l'impression d'être mort. Ce n'est pas seulement une impression. C'est que dans ma première cellule, cette vitalité créatrice, l'acte créateur de Dieu est disparaissant, puisque je suis dans le deuxième moment de ma liberté, j'ai une odeur de mort, j'ai l'impression de ne plus vivre. Ce n'est pas une impression, c'est vrai, quelque part. Parce que la vie divine, c'est tout. Et c'est cette, donc, limite, je dois vivre à partir d'une séparation de la vivification créatrice de Dieu. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, il y a un espèce de sentiment de mort. Et c'est vrai que les artistes ont cette odeur de mort continuelle qui sont en eux, et c'est elle qui origine en réalité leur réaction psychologique d'insatisfaction et de folie. Vous voyez comment il faut lire le tableau ou pas? Pour la peur, je suis rempli de la présence de l'être premier et je me nourris dans mon âme spirituelle. Il me nourrit complètement, je suis saturé de la lumière glorieuse, de cette présence du Verbe, le Verbe de Dieu qui illumine tout homme venant à ce monde. Et d'un seul coup, ma vie contemplative disparaît. En plus, dans ma cellule, je n'ai absolument aucun organe pour vivre une vie contemplative. Un vide total sur le plan contemplatif. C'est un vide réel, hein. Vous avez, du point de vue donc, vous êtes partout, présent à tout ce qui est présent dans l'univers, par votre corps, votre cellule, grâce à la présence, l'omniprésence de la Créateur de Dieu, vitalement présente en vous, et d'un seul coup, vous êtes tout seul dans votre corps. Alors, vous éprouvez nécessairement une angoisse, parce que vous ne comprenez plus. Vous ne savez plus où vous êtes. Vous êtes dans votre corps, mais vous ne savez plus où vous êtes. Quand on est lié à tous les autres corps, on se situe. Tandis que dans la première cellule, vous ne vous situez plus. D'où cet ébranlement, cette limite de votre manière d'exister dans l'âme et dans le corps, qui fait que vous êtes dans une espèce d'angoisse. Vous ne vous situez plus et vous ne comprenez plus où vous êtes. Et c'est ça qui origine le tragique qui est en vous. Tout est dramatique. Enfin, vous avez ce sentiment de solitude, vous vous sentez seul. Ce n'est pas que Dieu vous a abandonné. Dieu ne nous a pas abandonnés. Pas du tout. Il nous a laissé à notre oui pour qu'on puisse vivre dans l'amour, d'un vrai amour, dans l'échange de l'amour, parce que l'amour qui va dans un seul sens n'est pas de l'amour. Et par conséquent, si c'est Dieu qui faisait tout le mouvement, ça veut dire que lui, il nous aime et que nous, on l'aimerait jamais. Donc, il ne nous abandonne pas du tout, au contraire. Mais il veut que nous soyons pleinement une personne pour répondre personnellement à son amour personnel. Et il résulte donc de cet amour séparant une réelle solitude. Parce que c'est la solitude qui structure profondément la vie de l'homme, le dynamisme de l'homme et la structure profonde de son cœur. C'est ça. Et c'est à cause de cette solitude que, psychologiquement, si je me laisse aller, je tombe dans le point de vue donc de l'isolement. Je me replie et je m'isole. Voilà pour ceux qui deviennent bouddhistes ou ermites. Il y a des cinglés qui deviennent ermites. Et vous avez ensuite des gens qui sont donc, Dieu est là, complètement un seul corps avec vous. Faites un corps mystique avec Dieu et avec tous ceux qui sont avec lui, au fond. Vous comprenez ? Vous faites partie de toute une Jérusalem, de toute une... Vous comprenez ? D'un corps mystique extraordinaire dans cette première cellule, c'est fantastique, vous comprenez ? Et d'un seul coup, il faut que vous alliez prendre votre place librement pour glorifier Dieu seul, et seulement Dieu. Pas. Et alors à ce moment-là, c'est donc normal qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'amour séparant, vous vous sentez totalement relatif. Hein. La pure relativité, vous voyez que finalement vous n'êtes rien pour vous-même et vous êtes dans une. C'est un être purement relatif. Vous perdez le sens de votre substance, de votre gloire et vous sentez que cette gloire a disparu et que vous êtes purement relatif. Hein? C'est pas drôle de se dire bah, je suis relatif, moi je suis. Qui vous êtes, moi, relatif. Quand on fait de la grammaire en CE2, c'est pas pronom relatif. Alors, vous tombez du coup dans l'indifférence. Hein, il y a toujours, vous avez toujours eu ça en classe, en primaire ou le secondaire, il y en a toujours un qui est là, qui fait bof. Bof, wow, mof, coopère pas du tout. Bon. L'aliénation structure la manière limitée d'exister dans mon âme, parce qu'il est bien évident qu'à partir du moment où ma vie ne dépend pas de l'irrigation vitale de la donation paternelle de Dieu, à ce moment-là, il est bien évident que j'étais vitalement, dans ma liberté, était aliéné. C'est la liberté divine qui faisait que j'existais et que je vivais. Et d'un seul coup, il s'en va. Et cette liberté divine n'aliène plus ma liberté. Mais j'ai la nostalgie de cette aliénation. Et je perçois aussi négativement, bien sûr, là, vous commencez à voir où le négatif apparaît, je commence à percevoir négativement, je peux percevoir amoureusement cette aliénation ou négativement. Dieu est une aliénation, donc j'y retournerai pas. N'est-ce pas ? Et en réalité, vous avez ces manières-là qui sont à la fois psychologiques d'une part, qui correspondent aux limites de notre manière d'exister dans l'âme, vont elles-mêmes se répercuter dans des phénomènes de radiation, je ne sais pas comment vous exprimer, dans des phénomènes corporels de transpiration spirituelle, de transpiration humaine qui sont en vous et qui vont vous dire à un moment donné, il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller, j'y vais quand même. Et c'est ça les nostalgies, qui éveillent l'intelligence à chercher Dieu quand même et à se mettre en route et à dire, allez, il faut que j'y aille. Il faut que je me défonce. Et voilà les fameuses nostalgies, et c'est pourquoi nous avons tous soif de bonheur et d'épanouissement. Nous avons tous une infinie soif de transformer l'univers pour qu'il soit plus parfait. Nous avons une soif artistique incroyable. Nous sommes déchirés en nous par la dualité qu'il y a en nous entre le corps, entre l'âme et le corps. Oui, parce que le bien que je veux, n'est-ce pas, et le mal que je ne veux pas, etc. Cette dualité, mon corps me pousse à ceci, mon âme voudrait autre chose. Bon, cette dualité, c'est quelque chose de tragique. Il y a un appel à me dépasser, un appel à me sacrifier, mais j'ai peur de la souffrance. Voilà une nostalgie très facile à repérer. J'ai un appel à me sacrifier. Ah oui, je veux bien m'offrir en victime d'amour, mais j'ai peur de la souffrance. Alors, et il y a aussi cette j'ai soif de comprendre, j'ai soif d'aimer, toutes mes puissances, l'intelligence, la mémoire ontologique, la volonté, la source d'amour a soif d'aller jusqu'au bout d'elle-même et d'atteindre son épanouissement absolu, sa nourriture finale. Oui, j'ai une soif infinie, tout à fait. Et je vide ça. C'est à cause de ça que je rentre le plus possible dans la vie intérieure. Mais enfin, attention, c'est justement dans l'autre que je trouve mon bien. Ensuite, il y a enfin la nostalgie du dépassement du temps. Ah, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est... Moi, je voudrais aller plus vite, hein. Et je voudrais que ça soit tellement intense que je ne vois pas le temps passer. Mais cette nostalgie du dépassement de la succession temporelle. Ça, c'est sûr, ça, c'est en nous, c'est absolument indéniable. Pourquoi ? Parce que on est dans un état de dépendance dans la première cellule, de dépendance. On dépend vitalement de la vitalité divine. Et en même temps, on est dans un état de spontanéité totale dans la première cellule. C'est sûr. Parce que quand vous êtes dans un état, quand vous retrouverez ça dans la septième demeure de l'union transformante, c'est-à-dire la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait l'expérience, quand vous êtes totalement brûlé dans le respect absolu de votre personne et le respect absolu de la personne de Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas changé, mais vous êtes un seul, dissous l'un dans l'autre, sans être changé, en étant parfaitement respecté, magnifié l'un et l'autre, et, n'est-ce pas ? Eh bien, vous êtes dans un état de spontanéité incroyable. Vous n'avez jamais été autant vous-même que vous-même. Et en même temps, c'est la vie divine qui brûlait toute votre vie. C'est extraordinaire. Dans le premier moment de la première cellule, identiquement, il y avait un phénomène de dépendance et en même temps de spontanéité. Et aussitôt, après l'amour séparant, qu'est-ce qui se passe ? À certains moments, il faut que je mette ma vie dans la vie de Dieu. À ce moment-là, il faut que je fasse des efforts terribles. Des efforts terribles. Et du coup, je ne suis plus du tout spontané. C'est pas spontané du tout, c'est pas inné. Il y a d'autres moments où je suis dans un état de spontanéité vitale, mais du coup je dépends pas de Dieu, parce que quand je suis spontané, je fais mon caprice, etc. Et donc il y a une différence entre la spontanéité vitale et l'état de dépendance vitale. Et il y a cette nostalgie qui est en moi. Ça crée en moi une nostalgie où je voudrais être en même temps dépendant et en même temps spontané. Et donc j'ai une perception ici divine, voyez bien, voilà. Par rapport à ceux qui sont autour de moi, je voudrais dans la vie sociale, dans la vie du travail communautaire, dans la vie familiale, je voudrais dans ma manière d'exister au milieu de l'humanité, je voudrais bien sûr dépendre de l'Église, mais en même temps de vivre spontanément cette dépendance. Oui, mais il y a Ratzinger qui arrive. Non ! Il y a l'inquisiteur qui arrive. Non ! Il y a l'ayatollah qui arrive. Non ! Ah merde ! Et pourtant, c'est nécessaire qu'il y ait cette dépendance. Il y a Shammai qui arrive. Et non, Shammai et Hillel sont ensemble. Et je voudrais que Shammai et Hillel soient ensemble, n'est-ce pas ? Il y a cette nostalgie qui est en nous, ça c'est absolument indéniable. Nostalgie du dépassement de la succession temporelle qui vient de la différence qu'on ne vit plus, de cette dépendance vis-à-vis de tous les autres, et en même temps on est spontané. C'est extraordinaire ça. C'est cette nostalgie qu'on trouve dans les groupes charismatiques. Alors là, dans les groupes charismatiques, vous trouvez cette nostalgie à l'état, à poil. Quoi. C'est extraordinaire. On ne peut pas le psychanalyser, mais on peut comprendre pourquoi. Et on peut comprendre que, attention, ça vient quelque chose de spirituel, mais peut-être que la détermination principale de ce mode vient des nostalgies et ne vient pas de l'unité du Père et du Fils. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Parce que la mise à nu des nostalgies me libère à nouveau et me permet d'aller plus loin. Enfin, l'exigence de l'immanence de la vie. Oui, dans l'adoration, j'existe, je suis suspendu à la créature de Dieu. Dans l'adoration, je vois que j'existe, je prends conscience, je suis suspendu à la créature de Dieu. La créature de Dieu est transcendant par rapport à moi. Il est tout autre que moi. On appelle ça, en langage courant, vous ne verrez pas ça à la télé, évidemment, malheureusement, la transcendance. La différence entre la transcendance et puis l'immanence. Dans l'adoration actuellement, mon être est suspendu à la créature de Dieu. C'est transcendant, je suis transcendé par la créature de Dieu. Alors, du coup, je lui donne toute ma vie par amour, je me laisse attirer par l'être premier. Je rentre dedans, je découvre spirituellement, contemplativement, l'attribut. Ouais, ça c'est sûr. Mais dans la première cellule, c'était à l'intérieur de ma vie que j'étais à l'intérieur de la vie de Dieu. Je n'atteignais pas Dieu par la transcendance. Et cette transcendance de Dieu était dans mon immanence. Alors il y a cette nostalgie de l'immanence de la vie. Et c'est à cause de ça qu'on va tomber dans des théories qu'on appelle par exemple l'existentialisme de Sartre, qui va faire que du coup, j'ai une telle nostalgie de l'immanence vitale de ma première cellule, donc je refuse de rentrer dans la liberté de ma seconde cellule, pardon, du deuxième temps, après la première cellule, je refuse, je veux me replier dans l'immanence de la vie. Pour moi, c'est ça la liberté, je veux nier mon en-soi et mon pour-soi. Et tel est mon pour-soi que de nier mon en-soi. Pour Sartre, le suicide est l'acte de la liberté la plus profonde qui me permet de retrouver mon état originel de liberté pure. C'est pour ça que les disciples de Sartre se sont suicidés. Alors, heureux, les disciples de Sartre, dans cette pièce. En tout cas, c'est à cause de ça. Et c'est à cause de ça. Alors, concrètement, vous dites, non, moi, je suis pas d'accord avec Sartre. Ah, je suis pas d'accord avec Sartre. Tintin, t'es pas d'accord. À chaque fois que tu as dit à ta mère, que tu as dit à ton copain, que tu as dit au bon Dieu en disant « je suis libre hein, », dégage, je suis libre, quoi. Bah, par exemple, j'ai envie de fumer une cigarette. Ça fout mal. Bah, par exemple, un moine. Prenez un moine. Mais il est moine, il y a quand même une respectabilité assurée. Enfin, bon. Et puis, il grille une clope. Ça fout mal. Alors, il y a une espèce de campagne qui dit quand même, je suis libre, quoi. Je suis libre. C'est vrai, l'ado, il dit, pourquoi l'huile du Maroc, elle a l'air pure. Oh, vraiment, qualité première, c'est une du Maroc géniale. Ah ben non, fais pas ça, t'es connerie. Ah ben, je suis libre, merde. L'enfant. La mère et le père vis-à-vis de l'enfant. Mais enfin, laisse-le, il est libre. Ça, c'est Sartre. Ça. C'est c'est la destruction radicale de l'humanité de l'enfant de faire ça. C'est la manière la plus sûre de détruire et de suicider quelqu'un. Alors, nous verrons la prochaine fois comment, parce que ça, c'est la lecture du tableau, et ça, c'est ce qui se passe dans la partie spirituelle de votre âme. Nous verrons la prochaine fois comment se réalise dans la première cellule cette rupture de l'amour séparant de Dieu, et quelle, grâce à la détermination des limites, de la descriptive et des abonnements profonds, comment tout cela va être incarné dans ma première cellule, de manière que je puisse réaliser un choix personnel, et je voudrais que la prochaine fois, je puisse vous aider à déterminer et à redécouvrir quel a été votre premier choix personnel dans la première cellule. Est-ce que ça a été un choix de vie? Est-ce que ça a été un choix de mort? Est-ce que ça a été un choix de nuit? Est-ce que ça a été un choix, etc. Est-ce que ça a été un choix d'absolu? Et nous ne l'avons pas fait, ça. Pas encore. Nous avons regardé ce qui s'est passé comme ébranlement profond, comme répercussion dans l'âme. Nous n'avons pas regardé le choix personnel que nous en avons fait par la suite et qui a déterminé notre liberté dans son premier acte. Et c'est ce choix qui explique l'état dans lequel nous sommes et qui va déterminer quelque part la manière dont la rédemption va venir s'emparer de nous pour que l'union se fasse dans un degré supérieur à celui dans lequel il eût été fait si je n'avais pas fait un choix négatif.